Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant, festival international du film de fiction historique avec Sarah Kaminski. Et bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
Et pour cette dernière de cette journée bien occupée, eh bien, je te propose de partir à la rencontre de Sarah Kaminski, qui était venue au Festival international du film de fiction historique. Oh bah non, encore?
Une de plus.
Et une femme impressionnante, une scénariste qui a écrit des scénarios assez hallucinants, tels que Adieu, Monsieur Hoffman, qui était présenté en séance culte avec le musée, une personne du musée de la Résistance, pour un moment vraiment d'anthologie autour du film Adieu, Monsieur Hoffman. Alors, ce film est toujours disponible sur Canal+. Il est sorti le 12 janvier 2022 sur grand écran au cinéma, mais vous pouvez le trouver en intégralité sur Canal+. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce film qui est vraiment magique, avec des interprétations phénoménales de Daniel Auteuil, Gilles Lelouch, Sarah Giraudeau. Quand même trois personnages, c'est un huis clos, mais très très fort. Et je suis très très heureuse d'avoir rencontré Sarah Kaminski au festival et d'avoir eu son interview. Et bien sûr, je vous laisse la découvrir. Bonjour Sarah.
Bonjour.
On est au Festival international de films de fiction historique où vous venez présenter Adieu, Monsieur Hoffman. Qu'est-ce que ça fait de présenter ce film ?
Ben, une immense joie parce que c'est un film dont je suis extrêmement fière, vraiment fière. Et voilà, il est sorti peu après le confinement dans des conditions un peu extrêmes. C'est-à-dire que vraiment, je crois que c'était le moment où il y avait le plus de diffusion de Covid, où même nous qui voulions que tout le monde aille le voir, on se disait mais si les gens vont au cinéma, ils sont fous. Ils vont tous tomber malades. Donc voilà, c'est un film qui compte énormément, qui est extrêmement bien fait, sur lequel Fred Cavaillé a fait un travail de réalisateur extraordinaire. Donc je suis très très fière de venir le présenter.
Une adaptation magnifique de la pièce de Jean-Philippe Daguerre.
Absolument, la pièce au je ne sais même plus combien de Molière, quatre Molières,
dont trois prix d'interprétation.
Absolument. Et Jean-Philippe Daguerre, que je salue par ailleurs, et qui, on a eu une chance extraordinaire avec Fred, c'est que Jean-Philippe nous a fait confiance dès le début et jusqu'au bout, alors qu'on lui a dit qu'on allait s'éloigner de son texte. On lui a expliqué pourquoi, mais sans lui faire rien lire au départ. Et on a eu de sa part vraiment cette confiance absolue jusqu'au bout. Enfin, moi, je ne le remercierai jamais assez déjà de nous avoir donné ce matériau extraordinaire qu'il avait fait et de nous laisser l'adapter. La plus grosse récompense quand il l'a lu, puis surtout quand il l'a vu, c'est quand il nous a dit ces deux œuvres. Voilà, pour lui, c'était deux œuvres distinctes, mais il était extrêmement ému de voir ce qu'on en avait fait. Enfin, il était extrêmement fier aussi. Donc voilà. Donc c'est un vrai travail collaboratif, mais du début à la fin, c'est assez rare. Donc voilà.
Oui, parce que vous teniez avec Fred Cavaillé à montrer la collaboration en France.
Absolument.
Et étoffer le rôle de François.
Absolument, étoffer le rôle de François, et puis surtout lui donner une trajectoire. Lui donner une trajectoire qui était plus complexe que ce qui était dans la pièce. Et aussi à donner à Hoffman une trajectoire qui était plus complexe. C'est-à-dire que on s'est beaucoup posé la question, enfin souvent quand on voit des films sur la Seconde Guerre mondiale et des livres, on parle énormément des personnes qui ont des destins héroïques. On parle pas des gens ordinaires. Ouais. Là, on a trois personnes qui sont des personnes ordinaires. Or, les personnes ordinaires, face à un tourment tel que la guerre, peuvent se révéler d'un côté ou de l'autre. Et c'est pas forcément ceux qu'on pense se révéler de manière la plus juste, la meilleure, qui vont le faire. Et inversement. Et au départ, pour nous, c'était absolument important qu'on soit en empathie totale avec François. Mmh. François qui est une victime. François qui est pas à la place sociale qu'il aimerait. François qui a un problème avec sa virilité parce qu'il n'arrive pas à donner un enfant à sa femme et qu'à l'époque, être un homme, c'était donner un enfant à sa femme. Donc en fait, il est incompris, il n'est pas à sa place, il boite, il n'a pas pu faire la guerre. Mmh. Et du coup, tout à coup, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, va lui donner l'opportunité d'être ce qu'il n'est pas, en volant la place de quelqu'un. Voilà. Donc, il le fait au départ par amour, et pour nous, c'était très important que sa motivation première soit juste. Mais jusqu'où on va quand on fait un pacte avec le diable ?
Il va loin.
Il va loin.
Très, très
loin.
Parce
que le diable n'a pas de limite. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est
il
important
pour
nous.
Il va même faire quelque chose qui va le pousser à la jalousie.
Complètement.
Ça va se retourner contre lui.
Ah bah exactement. En fait, il ne peut pas faire d'enfant. En tout cas, il est convaincu qu'il est stérile. Mmh. On verra ce qui se passe, mais il est convaincu qu'il est stérile. Et le vrai pacte qu'il fait avec le diable, c'est de demander à Hoffman, qui lui-même a des enfants, de faire un enfant à sa femme. Sa femme qui n'est pas d'accord avec ça. Donc voilà. Donc à partir de là, et donc il se met lui-même dans le pire des tourments. Qui est de non seulement prendre conscience qu'il n'est pas capable de donner un enfant à sa femme, le faire par quelqu'un qui ne le veut pas, à sa femme qui ne le veut pas, et alors là, voilà. Et après, il ira plus loin, toujours plus loin, en voulant avoir le métier qui n'est pas le sien, avoir la position sociale qui n'est pas la sienne, avoir le talent qu'il n'a pas. Et voilà, c'est inarrêtable.
Mais comme on dit, bien mal acquis, nous profite jamais.
Absolument. Absolument. Il y a une métaphore très, très importante dans le film, qu'on a vraiment voulu faire avec Fred, qui est que, à vouloir la vie de cet homme, il obtient sa mort.
Oui. C'est très fort, ça.
Ça, c'est très fort.
C'était très jouissif. Ouais. Je vous assure, j'étais dans la salle de cinéma, j'étais là. Yes! On n'était pas beaucoup, on était avec des masques. Je m'en souviendrai parce que c'est vraiment un des premiers films que j'ai été voir après que les salles ont rouvert. Et j'avais ce masque et j'ai fait un « Yes !» et j'étais pas la seule.
Et le personnage de Blanche, qui pour nous est vraiment le personnage fort, oui, par excellence, alors que elle est tellement ce petit oiseau fragile, elle est tellement dans ses rêves de romantisme, presque de petite fille. C'est presque une petite fille. Et en fait, cette femme, au milieu de toute cette histoire, c'est la seule qui est forte. Jusqu'au bout. Et ça, quand elle renonce à ouvrir la porte, je veux pas spoiler la
fin. Ça, c'est magnifique.
Ouais, mais ouais, c'est parce que c'est cette petite fille, c'est parce qu'elle est si fragile. Et quand tout à coup elle le fait, c'est d'une force.
Elle prend sa vie en main.
Exactement.
Et elle déclare que elle est libre.
Exactement. Et oui, absolument. Pour le futur, pour son futur, et oui, tout à fait.
C'est ça. Ce film, en plus, il a une histoire parce que il y a un casting d'exception, on peut le dire.
Ah bah oui.
Ça se passe en huis clos, pratiquement tout le film, avec Daniel Auteuil. Alors, Monsieur Hoffman. Oh.
Daniel Auteuil, qui a... moi, je l'aime dans tous ses films. Daniel Auteuil, c'est pas difficile parce qu'il joue tellement bien. Enfin, il joue bien de dos, il joue bien. Mais alors là, particulièrement dans ce film-là, dans les silences, parce qu'après tout, il n'y a pas tant de texte que ça, mais jamais aucun silence n'aura été aussi oppressant que ces silences. C'est tellement la retenue, il a tellement envie de se rebeller, il ne le peut pas. C'est-à-dire l'empêchement, l'impuissance face à une situation abjecte, face au fait de mettre dans la balance la sécurité de sa femme et ses enfants. Il le joue, mais tellement bien. Enfin, moi, je suis complètement fascinée par le travail de Daniel Auteuil sur le film, par la puissance de cet acteur.
Et puis, que dire de Gilles Lellouche qui joue François ?
Alors...
un rôle vraiment incroyable et très très difficile
et
pour
pas du tout,
apprendre sur les épaules.
C'est ça.
Quoi.
Et surtout pas du tout dans ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'en fait, quand même Gilles Lellouche, on l'a beaucoup vu dans des rôles en pleine virilité,
ouais,
virilité puissante et joyeuse et etc. Là, en fait, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que c'est un homme dont la virilité est mise en question dès le départ. La virilité de l'époque, hein, c'est-à-dire un homme qui peut pas faire un enfant à sa femme, un homme qui n'a pas pu faire la guerre parce que il boite, parce que donc en fait c'est un homme fragile dans sa virilité.
Tout le temps rabaissé.
Et donc du coup moi c'est la première fois que je le vois jouer un rôle comme ça au cinéma. Et c'est vrai que c'est totalement stupéfiant de le voir jouer ça. Et toute sa colère et toute sa haine vient de cette fragilité. Je vais citer une phrase. Je la cite pas parfaitement, mais c'est Simone de Beauvoir qui disait qu'il y a pas plus dangereux, qu'il y a pas plus agressif qu'un homme fragile sur sa virilité. Mmh. Et François, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce que dépeint Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe.
Et que dire de Blanche?
Je suis dithyrambique sur Sarah Giraudot, qui pour moi fait une palette extraordinaire justement de tension. Pour moi il y a une scène emblématique, alors je spoil un peu pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais moi j'écris des scénarios, hein, donc dans le cinéma, surtout dans le cinéma de thriller, et c'est un thriller psychologique. Il y a des scènes de tension extrême. Alors souvent, les scènes de tension extrême dans les films d'action qu'on voit, ça va être... alors là, il faut déminer la bombe avant qu'elle explose, et puis il y a des trucs extraordinaires et tout. Nous, on a une scène de tension dans Half-Man qui est tellement réaliste, parce qu'en gros, est-ce qu'elle va réussir avec un tournevis à ouvrir une porte en bois que Half-Man n'arrive pas à défoncer parce qu'il n'a plus l'âge de défoncer une porte en bois. C'est-à-dire que c'est dérisoire. Dans n'importe quel film, il défonce la porte et elle y arrive avec le tournevis. Ils n'y arrivent pas. Voilà. Et tout est là. Et dans la vraie vie, on n'arrive pas à ouvrir une porte avec un tournevis. On n'arrive pas à défoncer une porte d'un coup d'épaule. Et la vie d'un être est en danger. Elle est en jeu. Et malgré tout, même avec sa vie en jeu, il ne peut pas le faire, en fait. Ça, c'est pour moi la scène de tension par excellence, parce qu'elle est vraie.
C'est vrai. Moi, je pourrais vous écouter pendant des heures. Hein. J'adore ce film. Il était vraiment, quand il est sorti, c'était vraiment l'apothéose. Enfin, c'était vraiment un film qui montrait justement cette collaboration et des gens vrais.
Des gens vrais, des gens qui ne sont pas des salauds.
C'est ça.
Des gens qui ne sont pas, qui ne se sont pas dit. D'ailleurs, qui sont même pas des antisémites. En fait, c'était ça qui était important. On ne voulait absolument pas se dire que François ou Blanche était en antisémite et qui faisait quoi que ce soit par racisme. Non, ils le font parce que c'est la guerre et que en fait il y a des opportunités et que tout à coup, si c'est pas eux, c'est d'autres. Voilà, voilà, ça questionne vraiment le fameux qu'est-ce que j'aurais fait à leur place. C'est facile a posteriori de dire ce qu'on aurait fait.
Mais Jean-Jacques Goldman le dit si bien, hein. On n'est pas à la place et
on n'est pas à la place. On peut pas juger a posteriori. On ne sait pas. On ne sait pas comment les gens se révèlent. Et c'était important pour nous, voilà, que ce soit des personnages très ordinaires face à une situation pas ordinaire, parce que c'est la guerre, et que qu'ils soient sincères.
C'est vrai que. Alors, est-ce que pour vous, quand on vous propose ce projet, est-ce que ça résonne en vous par rapport à l'histoire de votre père, qui était surnommé le faussaire de Paris?
Absolument, évidemment, oui, ça résonne évidemment parce que la période de la Seconde Guerre mondiale résonne, ça c'est sûr. Ça résonne énormément parce que mon père, qui a eu un destin très héroïque, est quelqu'un de très normal. Enfin, je veux dire, c'est une petite personne. Il avait 17 ans, il a toujours dit de lui-même qu'il n'était pas courageux. Voilà, donc ça résonne aussi, c'est-à-dire que on voit les héros sur leurs chars avec leur voilà, mais finalement il y a aussi les héros du quotidien et tout ça est une histoire vraiment d'individualité, donc bien sûr ça résonne. Évidemment la pièce de Jean-Philippe était déjà formidable, donc ça faisait un matériau extraordinaire sur lequel rebondir, puisqu'en fait on n'a pas créé cette histoire, on l'a adaptée. Alors on s'est éloigné, mais vraiment c'est une adaptation tout ça faisait énormément écho. Et sur la question du thriller psychologique, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement moderne pas du tout du passé, dans l'histoire de cette femme. Moi, pour moi, c'est Blanche, la modernité. La modernité, c'est elle. C'est-à-dire que c'est elle qui prend son destin en main et tout à coup, ça raconte comment on sort d'une relation toxique. Comment on fait face à ces rêves déchus, en fait, quand on était folle amoureuse de quelqu'un et que cette personne n'est pas celle qu'on croyait? Comment on fait? Alors ça, c'est extrêmement actuel et c'est ce que va vivre Blanche.
C'est vrai, tout à fait. Alors, vous avez fait des choses plus légères en
oui.
scénario. Je pense à la
ch'tifamille.
Red Dingue avec Alice Paul.
Oui.
Que vous avez retrouvé dernièrement en scénario dans un petit miracle avec Jonathan Zakaï.
Ouais, absolument. Donc oui, moi j'ai cette chance là, c'est-à-dire que pour moi j'appelle ça une chance, mais moi j'aime tous les genres au cinéma et j'ai la chance de ne pas être cataloguée dans un genre spécifique. C'est-à-dire que je fais du drame, je fais du film historique, je fais du thriller, je fais de la grosse comédie populaire, je fais de la comédie moins populaire aussi. Enfin, il y a plusieurs tons dans la comédie. Voilà, je fais beaucoup d'adaptations. Là, j'ai adapté avec Laetitia Colombani La Tresse qui va sortir
le 29 novembre.
Le 29
d'ailleurs,
novembre.
Elle passait là en première.
Oui.
Il y avait le festival première et ils y étaient. Et aussi le festival du CGR.
Ah oui, voilà,
qui
absolument.
Fait, avec La Tresse.
Des avant-premières. Ouais. Je suis très très fière aussi de ce qu'a fait Laetitia de La Tresse, qui est l'adaptation de son propre livre, qui était déjà magique et génial et qui a eu une histoire incroyable. Voilà, donc j'ai cette chance-là de pouvoir d'un côté faire voilà le destin de trois femmes courageuses qui sont aussi des histoires de personnes lambda. Dans La Tresse, je retrouve ce que j'avais fait dans Hoffman.
Oui,
c'est-à-dire que ce sont des femmes. Sont pas des femmes plus extraordinaires que ça, sont des femmes confrontées à une difficulté dans leur vie qui vont se battre.
Que ce soit la maladie ou la condition.
Voilà, la condition, la maladie, la problématique financière de faire marcher une entreprise au moment de la mondialisation, et puis aussi d'aider quelqu'un qui n'est pas de sa religion ou de sa couleur de peau.
L'intouchable.
Voilà, donc
On
n'en dira pas plus, mais... On suit des destins, c'est des destins croisés, et on suit ces destins, et parce que, justement, ce sont des destins qui pourraient être les nôtres, à chacun, chacune, bah, tout à coup, voilà, on vit avec elles quelque chose d'absolument extraordinaire. Moi, ces trois personnages féminins, je vis encore avec elles, enfin, elles me touchent comme c'est pas permis.
J'ai été particulièrement touchée par, l'avocate.
Oui.
Je l'ai redécouvert parce que je suis Grey's Anatomy.
Oui.
Et j'ai redécouvert cette actrice.
Kim Raver,
qui est incroyable.
Qui est incroyable. Oh. Elles sont toutes les trois incroyables. Et même j'allais dire toutes les cinq parce qu'il y a la petite qui joue
la fille
de Smita et puis il y a la petite qui joue la fille de Sarah. Ces cinq actrices, elles sont extraordinaires. Moi, elles me donnent de la chair de poule. C'est un film que j'ai vu je ne sais pas combien de fois et à chaque fois je pleure.
Je l'ai vu qu'une fois et j'ai pleuré tout comme
ça. Ah ben voilà. Mais moi je continue de pleurer. Je l'ai vu plein de fois en montage. En fait, je pleure à chaque fois. Enfin, c'est vraiment, c'est presque un gag. Mais ça allait pas parce que je suis touchée, tellement touchée. Voilà. Donc c'est quand même une joie pour moi de pouvoir à la fois travailler sur des films qui sont émotionnellement très forts comme Hoffman ou La Tresse. À côté de ça, de travailler sur des films où on va vraiment s'amuser, vraiment rigoler, où je peux y aller avec les enfants. Red Dingue, qu'est-ce qu'on s'est marré avec Dani, Alice Paul, mais moi, elle m'explose de rire quand elle est devant son micro et qu'elle voit de sa voix et qu'elle commence à faire n'importe quoi. C'est tellement, ça va loin et donc du coup, ça donne de la joie. Ce sont des films qui, je trouve, donnent de la joie et du divertissement. Donc non, je suis ravie de faire tous ces films. Le prochain film de Fred Cavaillé, c'est une comédie.
Ah.
Avec Dany.
Non.
Avec Dany dans le rôle principal.
Excellent.
Voilà. Et c'est aussi historique. Donc si ça se trouve, vous allez la voir ici au festival.
Ben voilà.
Parce que je dévoile pas trop. Il sort le 21 février. Et donc Dany et Jérôme Commandeur. Enfin, c'est Dany le rôle principal et Jérôme Commandeur. Et ce qu'il y a d'historique, c'est que ça se passe sous l'Ancien Régime. À une époque où il existait des procès d'animaux et on jugeait les animaux comme on aurait jugé les hommes.
Sérieusement ?
Absolument. Donc,
je ne savais pas ça.
Eh ben, justement, ça c'est vrai. L'histoire qu'on a écrite, elle n'est pas vraie puisque celle-ci on l'a inventée. Mais les procès d'animaux ont vraiment existé jusque l'Ancien Régime, donc sous Louis XIV, ça existait encore. Et il y a eu un procès très emblématique qui a été le procès d'une truie. Je sais plus ce qu'elle avait fait. Elle avait dû mordre le mollet d'un enfant ou quelque chose comme ça. Et elle avait des avocats, etc. Et au moment justement de son témoignage, il l'avait affublée d'une grande collerette là, les collerettes.
Ah oui, pour les
l'époque.
Animaux. Oui.
Non, pour les.
La fraise.
C'est ça.
Ah oui, c'est pas voilà. La collerette.
Pas la collerette. Ah, ouais, exactement. Il l'avait affublée pour qu'elle puisse être présentable devant. Pour le procès quoi.
Devant ces juges.
Ces juges. Donc il y a eu des procès de sangsues.
Elle avait un avocat.
Bah oui. Il y avait des procès de sangsues, pour que les sangsues quittent les marécages. Il y avait vraiment des procès comme ça.
C'est
donc,
fou.
Donc là c'est le procès d'une chèvre. Et ça s'appelle les chèvres. Et donc c'est en partie historique, mais pour le coup c'est vraiment de la comédie. Et je crois que Fred s'est bien amusé là. À faire un film qui est très singulier, qui est très étonnant et qui est très très drôle.
J'ai hâte de voir ça. En tout cas, je trouve que l'écriture est fluide dans beaucoup de choses que vous avez fait. Et j'aime beaucoup la patte que vous apportez parce qu'il y a beaucoup de tendresse
dans
chacun des films.
Alors ça, c'est vrai. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Après, je pense qu'on écrit ce qu'on est aussi un peu. Alors, par exemple, Afman, où c'est dur, parce qu'il y a des moments extrêmement durs. C'est vrai que, moi, Afman, on est sauvé par Blanche.
C'est la tendresse, en fait, entre Blanche et Monsieur Afman.
Et Monsieur Afman. Alors que, ils sont pas du même milieu. Ils ont pas de raison de connecter. Et en fait, à travers des tout petits messages, des tout petits mots, un tout petit échange, etc., on voit qu'en fait, l'humanité est là. Voilà. Oui, et pour moi, c'est très important, effectivement.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci.
Merci d'être venu. Et puis, on a hâte de découvrir le débat, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de questions.
De questions, j'imagine. merci beaucoup.
Et puis, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour
les chèvres.
Exactement.
Pour les chèvres, ce sera plus sur le ton de la comédie. Et je pense qu'on viendra sans la chèvre. Elles étaient deux d'ailleurs pour le tournage.
Ah oui, il y en avait deux.
Oui, il y avait une doublure.
Ah oui.
Une doublure chèvre. Ouais.
Merci.
Merci beaucoup.
En tout cas.
Merci.
J'ai très envie de vous refaire redécouvrir la bande-annonce de Adieu, Monsieur Afman.
Oui, les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai en zone libre.
Vous fermez la boutique ?
Oui. Mais c'est toi qui vas la racheter.
Moi, je peux pas parce que j'ai pas du tout les moyens.
Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Et à la fin de la guerre, on fera échange inverse.
Monsieur Hoffman. Merci. Voilà, t'es chez toi.
On dirait qu'on est des voleurs.
Pourquoi voleurs ? On fait rien de mal. Au contraire, on rend service. Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là ?
J'ai pas réussi à prendre le train. Les Allemands contrôlaient tout le monde.
Ne vous inquiétez pas, monsieur Hoffman. Vous allez rester pêcher le temps, on trouve une solution.
À ta place, je ferai attention.
Je recommanderai votre travail.
Attention à quoi ? Avec le risque qu'on prend en vous cachant ici. Vous mieux être bien avec eux, non ?
Tu me payes combien ?
Ils sont la même chose que ce que vous me donniez avant.
Vous allez enfin pouvoir travailler sur des pierres dignes de ce nom.
Espèce de salopard ! Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs.
Ouvre !
Soyez raisonnable. Remettez-vous au travail. Bonsoir, monsieur l'homme.
Monsieur le bijoutier.
Santé. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu comprends ça, c'est pour nous protéger, nous.
Arrête de me regarder comme ça!
Vous avez de la chance. Et la chance, c'est comme la guerre. Ça ne dure pas.
T'es fou.
Mais on vit une période de fou.
Vous n'auriez jamais dû lui proposer cette boutique. Avant, on n'avait rien, maintenant il veut tout.
On a parlé de beaucoup de choses avec Sarah Kaminski, des scénarios de films comédie, comme Red Ding ou Un petit miracle, qui était vraiment très très beau avec Alice Paul, mais aussi d'un film qui va sortir le 29 novembre 2023 sur nos écrans et qui s'appelle La Tresse. Et Léo, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
En Inde, Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Italie, Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada, Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est malade. Trois vies, trois femmes, trois continents, trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées, sans le savoir, par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier.
Un très beau synopsis et un excellent scénario. Je ne dis pas ça parce que c'est Sarah Kaminsky qui l'a fait, qui l'a coécrit, mais alors franchement, ça vaut vraiment le détour. Et on retrouve dans le rôle de Sarah, Kim Raver. Et Kim Raver, eh bien, c'est... Eh oui, non, vous rêvez pas, elle est dans Grey's Anatomy. Eh oui, c'est vraiment un pur bonheur de la voir parce qu'elle nous montre une palette de jeux très différente de celle de Grey's Anatomy et ça fait vraiment plaisir. On retrouve aussi Fotino Peluzzo. Alors vu comme ça, vous ne la connaissez pas trop, mais moi je l'ai vue dernièrement dans une série qui s'appelle Les Indociles, qui va sortir en Suisse prochainement et bientôt en France, je l'espère. En tout cas, moi, je croise vraiment les doigts pour que vous puissiez la voir. Et puis, on l'a vu dans d'autres films. Et je pense que c'est une belle petite pépite qui va venir en France et ailleurs parce qu'elle a vraiment, vraiment beaucoup de talent. On a aussi Mia Mileser qui joue le rôle de Smita et Sadja Patton qui joue le rôle de Lalita. Alors, je pourrais vous faire tout le casting, mais je vais pas le faire puisque le film ne va pas sortir encore. Il sort en novembre, donc je vous en parlerai prochainement. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de vous donner l'eau à la bouche et surtout de remercier Sarah Kaminsky pour ce film qu'elle a coécrit avec Laetitia Colombani.
Toi aussi, tu vas apprendre à lire et à écrire. Comme les brahmanes et les fermiers.
Bonjour.
Papa est parti tôt ce matin, il doit déjà être à l'atelier.
Salut.
Non, je veux jouer, c'est mon tour.
Non, t'as joué
plus
que moi.
S'il vous plaît, les garçons, vous pouvez arrêter de chahuter pendant que je conduis.
Toi, viens là. Prends le balai qui est là. Prends ce balai.
Qui t'a frappé?
Le maître.
On doit partir, on doit quitter Niamatapad.
Partir d'ici? Pour aller où?
Maman, où est-ce qu'on va? Maman, c'est papa!
Smita!
Allez, papa, dépêche-toi! Papa!
Julia, c'est ton père. Il a eu un accident. Maître? On est couvert de dettes, t'entends? Qu'est-ce qu'on va devenir?
Je suis désolé, je n'ai pas de bonnes nouvelles.
C'est la même chose que grand-mère.
Je peux pas te foutre en l'air maintenant. Couche avec un étranger. Tu me fais honte. Toi qui es en train d'essayer de me vendre au bataillon là pour éponger les dettes de la famille et vendre ta fille alors, tu trouves pas que ça c'est honteux?
Les Amazones. Ces femmes de l'Antiquité formaient un peuple de guerrières craintes et respectées. Elles menaient de nombreuses batailles dont elles sortaient souvent vainqueurs. Les historiens se disputent sur la nature de leur origine, mais pour beaucoup... Les Amazones restent un mystère.
Un très beau film rempli d'émotions. Franchement, c'est excellent. Nous, on l'a vu en avant-première au festival des CGR, donc au CGR Blagnac. Et il m'a fallu deux paquets de mouchoirs. Voilà, je vais pas mentir. Trois destins de femmes complètement différentes et un scénario vraiment au cordeau, fluide. vraiment super bien fait, de Laetitia Colombani et Sarah Kaminski. Voilà, encore une très belle découverte, encore un très beau moment offert par le Festival international du film de fiction historique. Sachez que vous pouvez découvrir le film La Tresse en avant-première au Pathé Wilson ce 10 novembre, ce vendredi 10 novembre à 20h en présence de la réalisatrice. Ne ratez pas cette occasion. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous à la conférence de presse. Je croise vraiment les doigts parce que j'ai de nombreuses questions à poser à la réalisatrice et à l'équipe du film qui sera présente. C'était Chaud Devant, Festival international du film de fiction historique avec Sarah Kaminski. Merci énormément à Sarah pour ce moment de partage et aussi pour cette découverte du film La Tresse qu'on a hâte que vous découvriez en avant-première ce vendredi 10 novembre à 20h au Pathé Wilson avec la réalisatrice. Ne manquez pas cette occasion. You're happy when I'm on my knees.